Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Hébreux 13, 8. Lettre circulaire. Août 2016. L'Ancien et le Nouveau Testament et les héritiers de Dieu. Je vous salue tous très cordialement par la parole de Hébreux 1, 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi, héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. La Bible est composée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu a établi par ses prophètes ce qu'il a prévu dans son plan du salut. Dans le Nouveau Testament, la preuve est démontrée, dès le premier chapitre, que tout ce qui a été promis dans l'Ancien s'accomplit. Tout comme il est exactement déclaré dans un testament, qui sont les héritiers, et ce qui revient à chacun. Ainsi, il a pris soin de consigner dans sa parole ce qui est destiné à Israël et ce qui est destiné à l'Église des nations. Dans Genèse 15, 4, l'Éternel Dieu donna la promesse à Abraham, le père de la foi, de lui accorder un héritier naturel. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Verset 6. Nous lisons, dans Genèse 18, 10, « Je reviendrai vers toi, à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Quant à Abraham, la foi et l'obéissance agissaient ensemble. C'est pourquoi il était même prêt à sacrifier Isaac, son héritier. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Hébreux 11, 19. En raison de son obéissance de la foi, l'Éternel jura par lui-même de bénir tous les peuples de la terre. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Genèse 22, 15 à 18. L'apôtre Paul se réfère à la fidélité et à la véracité de Dieu en écrivant, « C'est pourquoi Dieu, voulant montrer, avec plus évidence, aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. » Hébreux 6, 13 à 17. Dans l'Épître aux Galates chapitre 3 verset 7. Il qualifie les croyants comme les fils d'Abraham et il affirme au verset 29, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Il écrit concernant le mystère de Christ avec l'Église. C'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Éphésiens 3, 4 à 6. Les promesses de Dieu appartiennent aux héritiers par Jésus-Christ. La vraie foi est ancrée exclusivement dans les promesses de Dieu. Les vrais enfants de Dieu, les véritables héritiers de Jésus-Christ, croient chaque parole et chaque promesse. Dans Romains 9, 8, l'apôtre écrit. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse, qui sont regardés comme la postérité. Et dans Romains 8, 17, il écrit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Cette pensée aussi est très précieuse. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Galates 4, 1 à 7. Premièrement, la promesse, ensuite, l'accomplissement. D'abord avec le Rédempteur, ensuite avec les rachetés. C'est ainsi que commença la nouvelle alliance. Marie y trouva grâce aux yeux de Dieu. Luc 1, 30. Elle crut la parole de la promesse, Ésaïe 7, 14, que l'ange Gabriel lui annonça. Aussitôt le Saint-Esprit vint sur elle, et le verset 31 s'accomplit. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, Yahshua, en hébreu. Ainsi s'accomplit le psaume 22. 10. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Par la naissance du Christ, le jour du salut et de la grâce commença. Ésaïe 49, 8. 2 Corinthiens 6, 2. La parole devint chair et habita parmi nous. Jean, 1, 14. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Verset 17. L'apôtre Paul expose que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. Acte 13, 33. Notre Seigneur et Rédempteur a versé son sang précieux. Il est mort pour nous, nous accordant ainsi la rédemption. Il a inclus par leur nom, tous les fils et les filles de Dieu dans son testament, lequel est sa dernière volonté. C'est ce que croit la troupe B, rachetée par le sang du Fils de Dieu. Nous recevons la parole en tant que semence. Luc 8, 11. Le Saint-Esprit engendre la nouvelle vie en nous. Et nous naissons de nouveau pour une espérance vivante, en tant que fils et filles de Dieu, comme il est écrit. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre 1, 23. Jacques le décrit de la manière suivante. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Jacques 1, 18. C'est ainsi que la parole d'Ésaïe 53, 10, s'accomplit avec les rachetés. La postérité le servira. Psaume 22, 31. Orientation spirituelle, conformément au plan de rédemption divin. Par le dernier prophète de l'Ancien Testament, Dieu a donné la promesse de ce qui arriverait au commencement du Nouveau Testament. Malachie 3, 1. C'est à la première promesse de l'Ancien Testament qui s'accomplit envers les héritiers du Nouveau Testament. Elle s'accomplit, en ce que le Seigneur envoya son messager devant lui, pour lui préparer le chemin. Se référant à Jean-Baptiste, notre Seigneur lui-même a dit, car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » Matthieu 11, 10. Luc a résumé en quoi consistait le ministère de Jean-Baptiste. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Luc 1, 16 et 17. Matthieu 17, 12 et 13. Tous ceux qui avaient trouvé grâce devant Dieu lors de la première venue de Christ, allèrent au Jourdain, crurent, le message divin, et se firent baptiser. Tous ceux qui crurent à ce que Jean-Baptiste annonça, « Moi, je vous baptise, d'eau, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit, et de feu. » Matthieu 3, 11, se rassemblèrent certainement à Jérusalem, car c'est là que la promesse d'être baptisé du Saint-Esprit s'accomplit. Les 120 furent les premiers à expérimenter l'accomplissement, lorsqu'ils étaient rassemblés dans la chambre haute, conformément à l'annonce que le Seigneur ressuscité fit une fois encore avant son ascension, dans Actes 1, 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pierre annonça à la foule qui s'était rassemblée, ce qui s'était passé, et, parlant du Rédempteur, il dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Acte 2, 33. Ce jour-là, 3000 âmes s'ajoutèrent à l'église originelle. Acte 2, 37 à 41. Pierre aussi, le jour de la fondation de l'église du Nouveau Testament, se référa à cette promesse de l'Ancien Testament, donnée dans Joël 2, 28. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Actes 2, 16 et 17 a. Nous vivons encore dans les derniers jours, c'est pourquoi nous pouvons nous référer à la même promesse du baptême du Saint-Esprit. Pour tous ceux qui croient maintenant le message du plein évangile, qui se repentent et se font baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, est encore valable. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Actes 2, 38 et 39. Comme au commencement, les vrais croyants expérimentent encore aujourd'hui ce que Dieu a promis, la conversion à Christ, le pardon de leurs péchés, le renouvellement, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, jusqu'au scellement du Saint-Esprit. Nos frères et sœurs, dans le christianisme primitif, expérimentèrent le plein salut par grâce. L'apôtre écrit la part qui est échue à ceux qui autrefois ont accepté la parole. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Éphésiens 1, 13 et 14. Ensuite vient l'avertissement, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4, 30. Celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture. Jean 7, 38. Nous devons reconnaître que, lorsque nous lisons dans le Nouveau Testament plus de 150 fois les mots, comme il est écrit, comme le dit l'Écriture, afin que l'Écriture s'accomplisse. Cela se rapporte chaque fois à l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons 845 citations reprises de l'Ancien, dont 185 proviennent des psaumes. Par cela, nous reconnaissons l'importance de l'accord parfait entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le 22 août 1965, Frère Branham a dit, l'Ancien et le Nouveau Testament sont, de moitié. Après sa résurrection, le Seigneur apparut aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, et il leur expliqua tous les passages des Écritures de l'Ancien Testament qui le concernaient. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin, et nous expliqua les Écritures? Luc, 24, 32. Il rappela également aux autres disciples, ce qu'il leur avait dit avant ses souffrances et sa mort. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Luc 24, 44b et 45. L'apôtre Paul a commencé sa première épître à l'église de Rome de la manière suivante. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Romains 1, 1 et 2. Comme Paul l'attesta dans sa première épître, de même moi aussi, je peux l'attester, par la grâce de Dieu, jusque dans ma dernière lettre. L'évangile de Dieu doit être propagé, exactement comme ces saints prophètes l'ont annoncé et promis dans les Saintes Écritures et tel qu'il a été transmis par les apôtres, à l'Église du Nouveau Testament. Il en est comme Pierre l'a écrit. Sachant tout d'abord vous-même, ceci est une nécessité, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. 2 Pierre 1, 20. Tout comme un testament révèle les dernières volontés de celui qui le rédige, ainsi l'Ancien et le Nouveau Testament montrent aux héritiers ce qu'ils possèdent légalement. Puisque Dieu a écrit nos noms dans son testament et qu'il nous a nommés héritiers, nous pouvons avoir part à ce qui se passe maintenant dans le royaume de Dieu. Tout comme il est vrai que Dieu accomplit dans le cours du Nouveau Testament ce qu'il a promis dans l'Ancien Testament, il est aussi vrai que les fils et les filles de Dieu, en tant qu'héritiers légitimes, expérimentent l'accomplissement des promesses qui les concernent. Tous les autres passent à côté de ces choses, même s'ils confessent sincèrement être chrétiens. Paul fait une comparaison entre un testament terrestre et le testament que Dieu nous a légué. Frère, je parle à la manière des hommes, un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Galates 3, 15. La pensée principale dans ce thème important est qu'il ne peut absolument rien être ajouté, ou enlevé, au testament que Dieu a fait. Tout le monde a du respect pour un testament terrestre, même les juges. Les noms des héritiers y sont inscrits, et rien ne peut être modifié. Pourquoi le même respect n'est-il pas manifesté envers Dieu et son testament? Pourquoi toutes ces interprétations et ces fausses doctrines sont-elles ajoutées à l'original? Galates 6 à 8. L'apôtre Jean, qui fut déporté sur l'île de Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, a écrit dans Apocalypse 1, « Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Les vrais héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ, ne peuvent accepter que ce qui est réellement écrit noir sur blanc, ce qui nous a été légué dans le testament divin. Ils sont appelés bienheureux, car ils croient chaque parole et ils gardent dans leur cœur ce qui est écrit. À la fin du livre de l'Apocalypse, cet avertissement sérieux est formulé, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie, et de la ville sainte, décrit dans ce livre. » Apocalypse 22, 18 et 19. Frère Branham a en effet répété et insisté sur ce passage biblique plus qu'aucun autre. La sentence décrétée par Dieu est irrémédiable et sera ainsi exécutée envers tous ceux qui se seront rendus coupables. Juste après, il nous a montré que ce n'est ni un prophète, ni l'apôtre Jean qui a dit cela, mais le Seigneur lui-même. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. » L'épouse de Christ atteste seulement ce que l'Esprit a dit par la parole, et s'exclame, « Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Verset 20. Et l'Esprit et l'épouse disent, « Viens. » Et que celui qui entend dise, « Viens. » Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Verset 17. Placement scripturaire. Il est connu de tous les croyants, qui croient ce que Dieu a promis pour notre temps dans l'Ancien et le Nouveau Testament, que frère Branham a exécuté son mandat dans le plan du salut. Malachie 4, 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Matthieu 17, 11. Marc 9, 12. Il a fait 18 fois le récit de ce qui lui a été dit, de la nuée surnaturelle, le 11 juin 1933, lors d'un service de baptême dans le fleuve Ohio. Nous redonnons ici ce qu'il a dit le 10 février 1960. Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour précéder la première venue de Christ, ainsi le message qui t'a été donné sera un précurseur de la seconde venue de Christ. Par son ministère, tous les mystères cachés dans la parole, depuis Genèse chapitre 1, notamment la chute originelle, jusqu'au dernier chapitre de la Bible, ont été révélés à l'Église. Et comme il le soulignait toujours, le message est « revenir à la parole ». Revenir au commencement. Revenir à la Pentecôte. Revenir à l'enseignement des apôtres. Revenir à la Bible. Ainsi, je me demande, quel est le but déterminé par Dieu et quel est le résultat du mandat? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir, et rétablir toutes choses. Matthieu 17, 11. C'est de cela qu'il s'agit maintenant, à savoir, que les vrais croyants soient ramenés dans la position originale comme au commencement. Dans Actes des Apôtres 13, 24 et 25, Paul, faisant référence à Jean-Baptiste, répète les paroles qu'il a prononcées au terme de son ministère et qui sont les suivantes. « Je ne suis pas celui que vous pensez. Mais voici, après moi vient celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers. » À la fin, par l'action du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 14, Éphésiens 4, et autres, l'Église doit expérimenter la pleine restauration de tous les dons de l'Esprit, de tous les fruits de l'Esprit, de tous les ministères, comme cela était au commencement dans l'Église primitive. Il est grand temps que chacun, individuellement, s'examine soi-même devant Dieu, et regarde dans le miroir de la parole. Au moment du vrai baptême du Saint-Esprit, ce ne sera pas quelques mots étrangers qui seront prononcés avec notre ancienne langue, non, la langue sera alors purifiée par le feu du Saint-Esprit. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Acte 2, 3. Les véritables enfants de Dieu parlent dans l'amour les uns avec les autres, et non pas dans la haine, les uns contre les autres. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean 3, 15. Jacques n'a pas seulement écrit à propos de la langue pleine d'un venin mortel. Chapitre 3 verset 8. Mais il nous encourage à rester patients jusqu'au retour de Christ, et attendre comme le laboureur, la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Chapitre 5 verset 7. Dans Hébreux 10, 35 et 36, une exhortation nous est adressée. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, c'est la condition, vous obteniez ce qui vous est promis. Et au verset suivant, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Nous croyons ce que l'Écriture dit, c'est-à-dire que Dieu lui-même achèvera son œuvre de rédemption, tout comme il a achevé son œuvre de création. Jean-Baptiste n'était plus sur la terre lorsque le Rédempteur accomplit à la croix la rédemption pour les siens. Frère Branham n'a pas besoin d'être sur la terre, lorsque le Seigneur vient prendre les rachetés. Dans le Testament divin, il est fait mention seulement du retour de Christ, non pas que le prophète reviendrait. Le Seigneur achèvera lui-même, avec grande puissance, son œuvre avec les rachetés, conformément à sa parole. L'Église fut établie par la puissante action du Saint-Esprit et il en sera de même à l'achèvement. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, 6. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. » Jean 4, 34. Les paroles de l'apôtre Paul sont aussi valables pour nous. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Philippiens 1, 6. Cependant, il prononce aussi cet avertissement, dans l'espoir que les paroles du prophète concernant l'incrédulité ne s'appliquent pas à eux. « Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez. Car je vais faire en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » Acte 13, 41. Dans Hébreux 12, 26, l'apôtre écrit de la part de Dieu. Lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. En écrivant ceci, il se réfère à ce qui est écrit dans le prophète Agée. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Agée 2, 6. Le prophète Ésaïe avait déjà annoncé dans l'Ancien Testament que le Seigneur achèvera son œuvre lui-même. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Peratsim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Ésaïe 28, 21. Dans le Nouveau Testament, Paul également met en évidence par la conduite du Saint-Esprit, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Romains 9, 28. C'est ce que nous attendons. Amen. L'ordre correct des événements, lors du retour de Christ. à cause des interprétations qui ont surgi à propos de ce que frère Branham a dit, principalement dans la prédication « L'enlèvement », il est nécessaire que cet événement soit éclairé encore une fois par les Saintes Écritures. Il est parlé du retour de Christ dans beaucoup de passages du Nouveau Testament, car cela était, après tout, le sujet principal du temps des apôtres. Notre Seigneur et Rédempteur a dit deux choses, « Je vais vous préparer une place. » Et aussi, « Je reviendrai, et je vous prendrai avec moi. » Jean 14, 2 et 3. Pour les véritables prédicateurs du message, s'applique ceci, ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté, de nos propres yeux. 2 Pierre 1, 16 à 21. Dans la Bible allemande, on trouve le mot « retour » 17 fois, par exemple dans Jacques 5, 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement « retour » du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. L'apôtre Jean écrit, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » 1 Jean 2, 28. Il existe différentes venues du Seigneur, mais nous, nous attendons la seconde venue, son retour promis. Jean 14, 1 à 3. Dans Luc 24, 50 et 51, et dans Actes 1, 9 à 11, nous trouvons le récit de ceux qui furent témoins oculaires, lorsque le Seigneur ressuscité s'en alla au ciel. Il leur fut dit, « Ce Jésus, qui a été élevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Actes 1, 11. Selon Psaume 47, 6, notre Seigneur est monté au ciel avec des cris d'allégresse et le son des trompettes, comme le vainqueur de Golgotha, le ressuscité qui a triomphé de la mort et de Satan. Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Et c'est aussi avec le cri de triomphe et la trompette de Dieu qu'il reviendra, comme cela est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. Il y est écrit textuellement, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, et avec lui, ceux qui sont morts. Et maintenant vient le ainsi dit le Seigneur, voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés, avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Cela ne peut être dit plus clairement. Celui qui fait attention à ce qui est écrit au verset 13 et 14, comprend, à qui, est adressé le cri de réveil du verset 16. Alors il n'est pas question d'un message qui est proclamé aux vivants pendant des années avant sa venue, comme certains le prétendent, mais il est question de ceux qui sont morts en Christ. Immédiatement après, nous, les vivants qui sommes restés, nous serons transformés et tous ensemble nous serons enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 15, 50 à 58, où Paul écrit au sujet de la transformation de nos corps au moment de l'enlèvement, il souligne également que le retour de Christ arrivera en un clin d'œil, et non, par étapes. Il est écrit, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. » La trompette sonnera, voir 1 Thessaloniciens 4, 16, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. 1 Corinthiens 15, 51 et 52. Celui qui ne croit pas cela, fait Dieu, menteur. 1 Jean 5, 10. Ceci ne peut changer, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Romains 3, 4. Le message, voici l'époux, allez à sa rencontre. Matthieu 25, retentit depuis de nombreuses années. Dans la prédication « L'enlèvement » du 4 décembre 1965, Frère Branham a dit très clairement, premièrement un message retentit. C'est le temps de nettoyer les lampes. Il se référait, au message de la parole révélée pour notre temps, avec lequel il a été envoyé, et qui précède la seconde venue de Christ. Son objectif est d'appeler à sortir, de mettre à part, de restaurer, et de préparer les véritables croyants pour le glorieux jour du retour de l'époux. Quand il viendra prendre son épouse, s'accomplira, car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, 27. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Matthieu 24, 40 et 41. C'est ainsi qu'il en sera au retour de Christ. Tout comme la résurrection corporelle et l'ascension corporelle de notre Seigneur et Rédempteur, étaient réelles, de même, le retour corporel de Jésus-Christ, ainsi que la résurrection corporelle des morts en Christ, comme aussi notre transmutation corporelle et l'enlèvement seront également réels. Celui qui ne croit pas que Jésus-Christ reviendra corporellement de la même manière qu'il est monté au ciel, n'est pas seulement un séducteur, mais selon 2 Jean verset 7, il est aussi sous l'esprit antichrist, car plusieurs séducteurs sont sortis dans le monde, ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ comme venant en chair. Celui-là est le séducteur et l'antichrist. Tous ceux qui enseignent que Jésus-Christ a quitté le trône de Lag Ra en 1963, et qu'il est descendu spirituellement pour revendiquer les siens, sont donc des séducteurs, et des faux docteurs. Si c'était le cas, qu'en est-il alors de tous ceux qui sont nés et qui se sont convertis dans les années 60 et après? Une telle interprétation est insensée, comme toutes les autres fausses doctrines. Nous remercions Dieu de tout notre cœur de ce que nous pouvons croire chaque parole de Dieu. Les signes du temps nous indiquent que son retour est très proche, car notre Seigneur a dit, concernant les événements du temps de la fin, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Luc 21, 28. Le message de la parole révélée, tel qu'il a été donné à Frère Branham, nous est précieux. Il précède réellement la seconde venue de Christ, comme il l'a confirmé le 12 janvier 1961, c'est le message qui précédera la seconde venue de Christ. C'est ce qu'a dit l'ange du Seigneur. Par le mandat divin direct que le prophète a confirmé, Dieu a conduit en sorte que je prêche la parole et que je publie les prédications de Frère Branham. Selon l'ordre direct du Seigneur, il a emmagasiné la nourriture spirituelle, et par l'ordre direct du Seigneur, j'ai le devoir de la transmettre et de la distribuer avec tous les frères dans le ministère, sur toute la terre. Matthieu 24, 45 à 47. C'est ainsi que le dernier message atteint tous les peuples et toutes les langues, comme le Seigneur lui-même a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. Conformément au mandat que le Seigneur m'a donné, je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole, je prêche la parole dans le monde entier, le plein évangile, comme frère Paul et frère Branham l'ont prêché. La parole, la Bible, est mon absolu. Le prophète a bien dit, ce n'est pas l'amour qui est la preuve parfaite qu'on est vraiment le Saint-Esprit, mais c'est quand on croit chaque parole. Ce n'est pas l'amour, ni le parler en langue, mais que l'on accepte chaque parole. 26 juillet 1964. Il est donc question, non pas d'écouter seulement une prédication, mais d'écouter la parole de Dieu. Le dernier message inclut tout ce que Dieu a à nous dire. Par lui, l'épouse de Christ est préparée pour le glorieux jour du retour de l'époux. Tous les élus savent que le temps est, maintenant, très proche. Ce sont eux qui, comme des vierges sages, entreront dans la salle des noces avec l'époux. Matthieu 25, 10. Comme il est écrit, et son épouse s'est préparée. Apocalypse 19, 7. Un exposé clair. Tous ceux qui connaissent le ministère de frère Branham savent ce que Dieu a fait dans notre temps et aussi ce qui s'est passé le 28 février 1963. La vision dont parla souvent frère Branham et qu'il me confia personnellement en décembre 1962 s'accomplit alors. Le Seigneur lui apparut sur la montagne Sunset, près de Tucson en Arizona, dans une nuée surnaturelle, encerclée de sept anges. En même temps, sept puissants coups de tonnerre ébranlèrent toute la contrée. Il lui fut dit, « Retourne à Jeffersonville, car les sept sceaux doivent être ouverts. » Le rapport donné par Dr. James MacDonald sur la nuée mystérieuse et la photo ont été publiés dans le journal connu Science Magazine du 19 avril 1963, ainsi que dans le Life Magazine du 17 mai 1963. Du 17 au 24 mars 1963, frère Branham prêcha donc à Jeffersonville sur les sept sceaux. Il s'agissait de la révélation de ce qui était encore caché dans la parole de Dieu. Apocalypse 5. Il expliqua que l'Église du Nouveau Testament se termine avec l'âge de l'Odyssée, Apocalypse 3, lequel dure jusqu'au retour de Christ, et que l'épouse n'apparaît de nouveau que dans Apocalypse 19, lors du repas des noces. Il lui a aussi été révélé que les quatre premiers sceaux, chapitre 6, 1 à 8, montrent l'Antichrist dans ses quatre phases de développement, monté sur les quatre chevaux. Dans le cinquième sceau, chapitre 6, 9 à 11, il lui fut révélé que les âmes de ceux qui avaient été immolés étaient les martyrs juifs, qui avaient gardé le témoignage de la parole, la Torah, les cinq livres de Moïse, comprenant aussi les 6 millions de juifs mis à mort durant l'Holocauste, dans le troisième Reich. Ils demandent vengeance au Seigneur Dieu, tandis que les chrétiens croyants prient pour le pardon de leurs ennemis. Le sixième sceau se rapporte à la période après l'enlèvement, le temps de la grande tribulation, comme frère Branham l'a répété plusieurs fois, le 23 mars 1963. Le 10 novembre, il se réfère à cela. Et il dit, pendant le sixième sceau, quand les trompettes retentissent, il a quitté le trône de la grâce, car son œuvre de rachat était achevée. En mars 1963, l'agneau n'a pas quitté le trône de la grâce, comme plusieurs le comprennent mal. Nous vivons encore au temps de la grâce, le sang de l'Alliance est encore sur le trône de la grâce, Hébreux 4, 16, l'Arche de l'Alliance, Lévitique 16, 11 à 14, Hébreux 9, 15 à 22, et il y restera jusqu'à ce que la grande foule d'Apocalypse 7 ait lavé et blanchi leur robe dans le sang de l'agneau, pendant la grande tribulation. En mars 1963, il n'y eut, pas non plus, de demi-heure de silence dans le ciel. En mars 1963, l'ange de l'Alliance, Apocalypse 10, n'est pas descendu sur la terre et n'a pas posé ses pieds sur la terre et sur la mer. En mars 1963, les sept tonnerres d'Apocalypse 10 n'ont pas fait retentir leur voix. En mars 1963, frère Branham a précisément reçu la révélation de ce qui avait été montré à Jean sur l'île de Patmos, quand l'agneau prit le livre mystérieux. Apocalypse 5. Grâce à Dieu, tout nous a été rendu pleinement clair, en sorte que nous pouvons mettre à la bonne place, dans le passé, le présent, et l'avenir, l'accomplissement de ce qui a été révélé. Les sceaux ne seront pas révélés après l'enlèvement, comme certains l'enseignent, erronément. Par la grâce de Dieu, ils ont été révélés à l'épouse, déjà maintenant. Il a été dit au prophète Daniel, « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs, alors, le liront, et la connaissance augmentera. » Daniel 12, 4. Nous vivons au temps de la fin, et nous pouvons sonder le livre et nous sommes reconnaissants pour la révélation que Dieu a donnée dans notre temps. Amen. Frère Branham a lu le passage biblique correspondant à chacun des 6 premiers sceaux. Ce qui se passe pendant le 6e sceau, Apocalypse 6, 12 à 17, nous montre clairement que c'est après l'enlèvement. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Verset 12. Le 6e sceau se termine par la déclaration, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Verset 17. Dans Apocalypse 7, 1 à 8, l'ordre est donné aux 4 anges du jugement, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Verset 3. Cela sera porté au scellement des 144 000 entre les 12 tribus d'Israël, par le ministère de 3 ans et demi des 2 témoins. Apocalypse 11. Ce n'est qu'après que les jugements des trompettes peuvent venir sur la terre. Dans les versets 9 à 17, est montrée la grande foule innombrable des fidèles qui doit passer par la grande tribulation, et qui a lavé sa robe dans le sang de l'agneau. Frère Branham n'a pas lu, dans sa prédication, le texte biblique appartenant au 7e sceau, mais uniquement le premier verset d'Apocalypse 8, concernant le silence dans le ciel. Le premier verset dit ce qui suit, « Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. » À partir du verset 2, il nous est dit clairement ce qui se passe ensuite, « Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. » Au premier jugement des trompettes, le tiers de la terre et le tiers des arbres furent brûlés. Verset 7. Au second jugement des trompettes, le tiers de la mer devint du sang. Versets 8 et 9. Au troisième jugement des trompettes, versets 10 et 11, il est question du tiers des fleuves. Au quatrième jugement des trompettes, verset 12, c'est le tiers du soleil, de la lune et des étoiles qui sont touchés. Ensuite vient le triple malheur sur tous les habitants de la terre, et l'avertissement des derniers jugements des 3 anges qui doivent encore sonner de la trompette. Verset 13. Quand le 5e ange sonne de la trompette, chapitre 9, 1 à 12, a lieu le 5e jugement des trompettes. Tous les hommes seront tourmentés pendant 5 mois, excepté les 144 000 alors déjà scellés, qui seront épargnés. Apocalypse 7, 3 et 4. Pendant le 6e jugement des trompettes, versets 13 à 21, les 4 anges du jugement, qui étaient liés sur l'Euphrate, et prêts pour l'heure, le jour, le mois, et l'année, tue le tiers des hommes. Verset 15. Ce n'est qu'après que les 6 anges des trompettes, et les 4 anges particuliers du jugement aient exécuté leur mission, que retentit l'annonce d'Apocalypse 10, 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Je demande à tous, au nom de Jésus-Christ, de lire Apocalypse 10 avec le plus grand respect depuis le début. Alors, le Seigneur lui-même descend, en tant que l'ange de l'Alliance, enveloppé d'une nuée, avec un arc-en-ciel sur sa tête, tenant dans sa main le livre ouvert, comme étant celui par qui tout a été créé. Il met un pied sur la terre, et l'autre sur la mer, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Verset 3. Le 17 mars 1963, Frère Branham lut le texte d'Apocalypse 10, et il dit, « Si vous l'avez remarqué, c'est Christ. » Dans l'Ancien Testament, il est appelé l'ange de l'Alliance. Il va alors directement vers les Juifs, car l'Église est achevée. Par le 7e messager aux Églises, comme Frère Branham l'a dit au moins 50 fois, tous les mystères nous ont été révélés. Mais, ici, il est question d'Israël, du 7e ange des trompettes, et, du, mystère, de Dieu. Colossiens 2, 2 et 3, qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Timothée 3, 16. Autrefois, les Juifs ne l'ont pas reconnu. Alors, ils le verront, celui qu'ils ont percé. Zacharie 12, 10. Jean 19, 37. Apocalypse 1, 7. Et nous allons de nouveau à l'Ancien Testament, et nous voyons que la seconde partie de Malachie 3, 1 s'accomplit, et que le messager de l'Alliance entrera dans son temple. Dans ce passage il est question d'Israël, de Jérusalem, et de la montagne de Sion, où les 144 000 sont rassemblés. Ceci est ainsi dit le Seigneur dans sa parole, de Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem il fit entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Joël 3, 16. Ce n'est que lorsque le Seigneur, en tant que le lion de la tribu de Juda, rugit, que les sept tonnerres font retentir leur voix. Jérémie 25, 30. Osée 11, 10. Apocalypse 10, 3. Cependant, la voix, venant du ciel, ordonna, celle ce qu'on dit les sept tonnerres, et ne l'écrit pas. Apocalypse 10, 4. Amen. Tous ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau immolé ont un grand respect pour cela. Les véritables enfants de Dieu ne croient que ce qui est écrit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Ils ne croient pas aux interprétations et aux fausses doctrines. Ils font la différence entre les sept tonnerres qui font retentir leur voix dans Apocalypse 10, et les puissants tonnerres qui retentirent le 28 février 1963, dont frère Branham a souvent parlé, et plus particulièrement le 24 mars 1963. Ceci était naturel, et furent accompagnés d'un tremblement de terre qui ébranla toute la contrée du Mont Sunset, en Arizona, de sorte que des morceaux de rochers s'écroulèrent de la montagne et coupèrent la cime des arbres. J'ai vu de mes propres yeux les monceaux de pierres et les arbres en décembre 1968, lors d'une excursion organisée, à laquelle frère Perry Green de Tucson avait invité plusieurs prédicateurs. Quand frère Branham parlait des sept tonnerres, ses pensées allaient certainement vers cette expérience extraordinaire. De nouveau, nous allons à l'Ancien Testament pour savoir exactement combien de temps il reste encore, lorsque l'ange de l'Alliance jurera. Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Daniel 12, 7. Que Dieu soit remercié pour l'exactitude de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, ce qui arrivera a été fixé. Dans le Nouveau Testament, nous voyons quand, où, et comment cela s'accomplit. Dans Apocalypse 11, 1 à 14, le temple est mesuré, et le ministère des deux témoins qui doivent apparaître à Jérusalem est exactement décrit. Il durera 1260 jours, c'est-à-dire exactement 3 ans et demi. Après le ministère des deux prophètes, quand le temple sera déjà bâti, Apocalypse 11, 1, Apocalypse 16, 1, ils seront tués, et enlevés au ciel. Ensuite les sept coupes de la colère de Dieu sont versées, puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, cet ange, qui tenait sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Apocalypse 15 et 16. À la fin de la période de la grande tribulation, après les derniers 3 ans et demi, le règne est alors annoncé. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. Apocalypse 11, 15 et 17. Luc 1, 33. Ésaïe 9, 6. Cela peut-il être écrit plus clairement et plus nettement que ce qui nous a été transmis dans la Bible? Pourquoi Dieu a-t-il repris son serviteur si tôt? Est une question qui revient souvent. Frère Branham fut un homme béni de Dieu et un prophète. Il lui était dit, déjà à l'âge de 7 ans, dans un tourbillon de vent qui secoua violemment les feuilles de la cime d'un arbre, Ne fume pas, ne bois pas, et ne souille pas ton corps d'aucune manière, car quand tu seras plus grand, il y a pour toi une œuvre à faire. Le 7 mai 1946, un ange le visita, lequel entra dans la pièce dans une lumière surnaturelle, et lui dit, « Ne crains, point. J'ai été envoyé vers toi, de la présence de Dieu. Comme il a été donné de signes à Moïse pour confirmer son ministère, ainsi il te sera aussi donné de signes. » Dans le ministère unique de frère Branham se répéta aussi ce qui arriva par le don prophétique du discernement au temps de notre Seigneur. À ce sujet, frère Branham s'est référé notamment aux exemples qui sont donnés avec Simon-Pierre et Nathanaël, dans Jean 1, 40 à 51, ainsi que par le récit de la femme au puits de Jacob, au chapitre 4. Il a aussi souvent pris Jean 5, 19 comme référence, pendant la prière pour les malades. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il voyait en vision des choses concernant les personnes qui venaient pour la prière. J'ai été témoin oculaire, et auriculaire, de ce ministère unique dans ses réunions en Allemagne et aux États-Unis. Trois fois, à savoir à Karlsruhe en 1955, à Dallas en 1958, et à Jeffersonville en 1962. Il m'a dit personnellement des choses qui lui avaient été révélées. Lui, qui pendant 33 ans vit en vision ce qu'il en était avec la personne qui se tenait devant lui dans la ligne de prière. Lui, qui pria pour des milliers dans de nombreuses réunions, et qui souvent était guéri immédiatement. Lui, par qui le réveil de guérison commença, après la Seconde Guerre mondiale, alors que nul encore n'avait entendu parler de Billy Graham, ou d'Oral Roberts, qui prononça plus de 1650 fois le « Ainsi dit le Seigneur », et c'était à chaque fois, « Ainsi dit le Seigneur », a été repris à l'improviste à l'âge de 56 ans, suite à un accident tragique. Le 18 décembre 1965, frère Branham prit la route avec sa Ford pour le long trajet de plus de 2500 km de Tucson, en Arizona, jusqu'à Jeffersonville en Indiana. Il avait pris des notes pour une prédication de 4 heures, au sujet de « La trace du serpent », qu'il voulait tenir dans son assemblée à Jeffersonville. Proche de la ville d'Amarillo, au Texas, il manqua la sortie, étant en conversation avec Sir Branham. Sa fille Sarah était assise sur la banquette arrière, et il dut faire un petit détour. Son fils Billy Paul, qui était en avant avec sa famille, et qui avait, avec lui aussi, son frère Joseph, attendait son père juste après la sortie. Ensuite frère Branham se remit à suivre Billy Paul. Près de Fresno, au Texas, une voiture traversa soudainement le milieu de la route à grande vitesse, et alla buter frontalement contre la voiture de frère Branham. Le conducteur, un jeune homme de 17 ans, ivre, et le passager avec lui sont morts sur le coup. Frère Branham fut grièvement blessé, ainsi que Sœur Branham. La fille Sarah subit de graves contusions. Le 24 décembre 1965, frère Branham succomba à ses blessures à l'hôpital. Sœur Branham et Sarah survécurent. Pour la famille et pour les croyants du message du temps de la fin, ceci fut un grand choc. Tout le monde demandait, pourquoi cela est-il arrivé ? 4 semaines plus tôt, le 27 novembre 1965, frère Branham avait même dit à 2 reprises, et dans un court intervalle, « Je ne mourrai pas. Je referai encore une fois le chemin. » Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Nous tous, nous nous sommes déjà souvent demandé, « Pourquoi Dieu a-t-il permis telle ou telle chose ?» Nous pouvons retourner dans le paradis et demander, « Pourquoi le Seigneur Dieu, qui marchait dans le jardin d'Éden, a-t-il permis que Satan séduise Ève ?» Les Juifs spécialement peuvent vous demander. Pourquoi Dieu a-t-il permis l'Holocauste? Pourquoi? Pourquoi? On peut sans cesse se poser la question. Dieu a également permis que Jean-Baptiste soit arraché à la vie de manière inconcevable, par décapitation. Matthieu 14, 1 à 12. Son ministère était certainement terminé. Les prophètes sont des gens comme nous. Et malgré leur mandat, hautement élevé dans le plan du salut, ils doivent mourir comme les hommes. Hébreux 11, 32 à 40. Le ministère de frère Branham était aussi terminé, sinon Dieu ne l'aurait pas repris. Sans savoir ce qui s'était passé, comme déjà relaté auparavant, je vis frère Branham dans une vision, alors qu'il était enlevé sur une nuée, habillé en costume et penché en avant, le soir du 24 décembre 1965. Pour qui cela paraît étrange, il faut dire que le Rédempteur ressuscité a aussi été enlevé sur une nuée. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Actes 1, 9. Après que leur ministère sera achevé, les deux prophètes d'Apocalypse 11 seront tués et enlevés également dans une nuée. Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Et leurs ennemis les virent. Verset 12. Et nous aussi, à l'enlèvement, nous serons pris sur les nuées. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, 17. Récapitulatif. Une fois encore, disons-le très clairement, chaque parole de Dieu fait partie intégrante du testament divin, et nous devons tenir compte du domaine évangélique, du domaine doctrinal, ainsi que du domaine prophétique, depuis le premier verset jusqu'au dernier. Pour ce qui concerne la proclamation de la parole, je me suis tenu et je me tiendrai jusqu'à la fin, uniquement à ce qui est écrit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Je dois cela aux héritiers de Dieu et aux co-héritiers de Jésus-Christ, aussi vrai que la véracité de Dieu habite en moi. Durant ces 50 dernières années, de nombreuses fausses doctrines ont été introduites par des experts Branham. Toutefois, jusqu'à ce jour, aucun d'entre eux n'a pu faire mention d'un appel divin. Des citations sont lues, au sujet des sept tonnerres, de la vision de la tente, du troisième poule, etc. Et puis des propres interprétations sont prêchées, sans vérifier en les ramenant aux Saintes Écritures et sans même ouvrir la Bible. Le point culminant est la modification qui a été faite à Jeffersonville. Jusqu'aux années 80, l'appellation « publication de la parole parlée » était en vigueur, et le verset 7 d'Apocalypse 10 était censé être la voix du septième ange. Plus tard il fut déclaré « voix de Dieu ». Voice of God. Dès lors, tous devaient écouter, de leurs propres oreilles, la « voix de Dieu » dans les prédications, parce que chaque parole que le prophète a prononcée est, prétendue, être les paroles de Dieu. C'est ainsi que frère Branham, qui déjà auparavant était vénéré par certains comme étant la parole est révélée dans la chair, loin, le Fils de l'homme, fut présenté officiellement comme étant Dieu. William Marion, fils de Charles et d'Ella Branham, était un simple homme, comme il l'a souvent dit lui-même, un pécheur, sauvé par grâce. A sinner saved by grace. Jacques écrit du prophète Élie, Élie était un homme de la même nature que nous. Chapitre 5 verset 17. Frère Branham aussi était un homme comme nous. Combien de fois a-t-il raconté ses histoires et ses expériences avant une prédication? Ses hobbies étaient la chasse et la pêche. Quand il était adolescent, il était un bon boxeur. Le 22 août 1950, il raconta ainsi. J'ai remporté 52 combats professionnels. Ses critiques ont énuméré le nombre de fois où il s'est trompé en parlant. En l'espace de quelques minutes, il dit deux fois, Enoch marcha 500 ans avec Dieu. Cependant Enoch ne vécut que 365 ans. Genèse 5, 23. Ou encore, Enoch était le septième après Noé au lieu de après Adam. Il a fait mention de l'année 1977. 17 fois. Particulièrement dans sa prédication du 6 août 1961, sur les 70 semaines de Daniel. Il avait lu les livres du Dr Larkin et du Riel Smith, c'est pourquoi il pensait que 1977 était le 50e jubilé et qu'à ce moment-là tout serait fini, que l'enlèvement aurait eu lieu et que les États-Unis seraient détruits. Toutefois il dit, je ne prophétise pas, je prédis que tout ce qui m'a été montré en vision en 1933 sera accompli d'ici 1977. Le 8 juillet 1962, Frère Branham dit encore plein d'espoir. Et ainsi j'attends le moment crucial, quand un jour je pourrai aller en Israël pour leur apporter l'Évangile, et encore le 11 juillet 1965. Mon ministère en Afrique n'est pas encore terminé. Que Dieu soit remercié, de ce que dès le début, j'ai tout compris de la bonne manière, également ce que frère Branham a dit en tant qu'homme. Je l'ai aussi connu en tant qu'homme, j'ai mangé à sa table, j'ai voyagé dans sa voiture, j'ai été en contact avec lui personnellement pendant 10 ans. Sa condition humaine et les diverses choses qu'il a dites de lui-même, ne changent en rien le ministère infaillible et unique qu'il a exécuté, suivant le mandat direct de Dieu. Nous sommes reconnaissants pour cela, car les paroles d'exhortation suivantes de notre Seigneur sont encore valables. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Jean 13, 20. Il est toutefois certain que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Le Seigneur a envoyé tous ses serviteurs, mais à lui seul appartiennent la gloire et l'adoration pour l'éternité. Nous n'avons pas à remercier Moïse, Élie ou Pierre et Paul, et pas non plus frère Branham. Nous rejetons tout culte à la personne et toute idolâtrie. Pour les vrais adorateurs s'applique encore, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Le chaos a été causé uniquement par les Branhamistes. S'ils n'avaient pas fait sortir des citations de leur contexte et fait de cela leur propre message, tout serait bien. Malheureusement, le frère qui avait conduit le service des funérailles du prophète, le 11 avril 1966, à Jeffersonville, et qui est depuis le 30 août 2015 dans un mausolée à Tucson, a lui aussi transmis ses propres imaginations et doctrines dans le livre intitulé « The Act of the Prophet ». Les actes du prophète. Par exemple, que la résurrection des morts coïncide avec le grand tremblement de terre sur la côte ouest de la Californie, aux USA. Et que frère Branham aurait un ministère spécial sous une tente pendant au moins 30 jours. Et de surcroît sous l'affirmation que le prophète le lui aurait dit, et même, ce qu'il aurait à faire dans la tente. L'intention de tous ceux qui se sont mandatés, et établis eux-mêmes, était dès le début, et est encore aujourd'hui, de mettre en avant le prophète pour gagner le respect des croyants naïfs. La parole de Dieu, la Bible, n'est plus du tout prise en considération. Il ne prêche pas du tout. Le rachat, le pardon, la réconciliation, la restauration, ni Jésus-Christ. Ils ne font que répéter, « The prophet said », le prophète a dit. Les croyants de Bérée avaient des sentiments plus nobles. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Acte 17, 11. Je le souligne encore une fois, s'il n'y avait pas eu de messager, il n'y aurait pas non plus de message. Dieu a tout déterminé d'avance. Tous les véritables enfants de Dieu sont reconnaissants pour le ministère de frère Branham. Ils croient le message divin, ils sont en relation avec Dieu et ils expérimenteront l'achèvement par sa grâce. Tous les prophètes et les apôtres ont eu leur temps, leur ministère, et ils ne sont plus sur la terre, toutefois la parole qui leur a été révélée demeure éternellement et c'est ce que nous prêchons. 1 Pierre 1, 25. Le dernier message purement biblique a maintenant atteint tous les peuples. Il reste encore une question, que seuls ceux qui sont mandatés par Dieu et qui sont envoyés par lui peuvent poser, qui a cru, à notre prédication? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Romains 10. Après que le Seigneur ait expliqué les paraboles du royaume de Dieu à ses disciples, il leur posa la question, « Avez-vous compris toutes ces choses ?»« Oui, » répondirent-ils. Matthieu 13, 51. « Avons-nous tout compris ?» Également la parabole des deux semences différentes. Versets 37 et 38. Avons-nous aussi bien compris ce que frère Branham disait d'une manière souvent énigmatique, parlant à la forme du passé, comme si la chose était déjà arrivée, alors qu'elle est encore à venir? Tout le livre de l'Apocalypse est aussi écrit de cette manière, comme si tout avait déjà eu lieu. Jean vit ce qui allait arriver, il vit descendre du ciel la nouvelle Jérusalem et vit aussi les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Dans sa prière, à la fin de la réunion du 24 mars 1963, frère Branham exprima ce qui suit, « Et je te demande encore, Seigneur, de bien vouloir m'aider. Je deviens toujours plus faible, Seigneur, et je sais que mes jours sont comptés. C'est pourquoi je demande ton aide. Fais que je sois fidèle, sincère et honnête, Seigneur, afin que je sois capable de porter le message aussi loin que cela est destiné pour moi. Quand le temps vient et que je dois m'en aller, quand j'arrive au fleuve où les vagues viennent se briser, ô Dieu, que je puisse remettre alors, cette épée, à quelqu'un qui sera sincère, et qui portera la vérité. » Au commencement de la propagation du message, à laquelle le Seigneur Dieu lui-même m'a destiné, c'était la parole. Ce n'est que plus tard que des hommes apparurent, semant leurs interprétations par des citations sur les sept tonnerres, sur la vision de la tente, ou sur le troisième poule, et sur d'autres sujets. Je prêche la parole, qui demeure éternellement, et dans la parole on ne trouve rien au sujet des sept tonnerres, ni de la vision de la tente, ni du troisième poule. Je ne peux absolument rien dire à ce sujet. Cela faisait partie du ministère de frère Branham et je respecte cela. Dans ses épîtres, l'apôtre Paul a maintes fois formulé des avertissements contre les fausses doctrines. La première fois dans Acte 20. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Verset 30. Et encore, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Romains 16, 17. Par la proclamation biblique dont j'ai été chargé, aucune division n'a été causée, au contraire, les vrais croyants sont unis en Christ, le chef. Au cours des cinq dernières conversations que j'ai eues avec frère Pierre Green, à la fin 2014 et au début 2015, il me disait que, suite à une autre séparation dans son assemblée, il y avait maintenant 9 assemblées du message à Tucson. Dans nos conversations, il insista à 3 reprises, « Frère Frank, je crois que ton appel est aussi vrai que celui de Paul sur le chemin de Damas. » Il avait désiré venir et en rendre témoignage devant l'assemblée, mais il ne lui était pas possible de prendre le vol avec le respirateur artificiel qu'il utilisait. Je n'ai certainement pas besoin que quelqu'un confirme mon appel et mon mandat. C'est Dieu qui le fait depuis déjà un demi-siècle. Mais personne ne peut s'imaginer quelle souffrance je ressens, sous la responsabilité directe que j'ai devant Dieu, à cause de tous ces dévoiements. Tous les frères qui propagent des faux enseignements sont en opposition avec le vrai porteur du message divin. Cependant, mon témoignage est le même que celui de Paul. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi, et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. 2 Timothée 4, 17. Ce message du salut sera prêché dans le monde entier. Jamais auparavant sur la terre la parole de Dieu n'a été portée de cette manière dans le monde entier, en personne, par des voyages dans 650 villes, 256 pays, et au travers de nombreux programmes de télévision. Le Seigneur pourrait redire Matthieu 24, 14, et ajouter, « Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie devant vos yeux. » Souvent plus de 1000 croyants de toute l'Europe viennent aux réunions mensuelles, ici au centre missionnaire de Krefeld, et certains aussi d'Afrique et d'Outre-mer. Environ 1600 assemblées de 172 pays se connectent à présent par Internet. Tous peuvent écouter la prédication en direct, par la traduction simultanée en 12 langues différentes. Tous ceux qui écoutent et croient à la parole de Dieu sont bénis et sont participants à la dernière action de Dieu. Tout comme il est certain que le pur message divin atteint les extrémités de la terre, il est aussi certain que le retour de Christ est imminent. Avant son retour, l'Église épouse doit être ramenée au même pas, et elle doit devenir un cœur et une âme en tout lieu. Le résultat produit par le pur message qui retentit maintenant, comme un appel au réveil, sera une épouse parole pure, présentée à l'époux. Quiconque se trouve emprisonné dans des dévoiements peut accepter maintenant la correction. Romains 16, 17 à 20. Tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse doivent être unis dans l'amour de Dieu, doivent être sanctifiés par la parole de la vérité, et doivent expérimenter leur préparation pour pouvoir entrer dans la salle des noces lors du retour de Christ. Matthieu 25, 10, Apocalypse 19, 7 à 9. Nous pouvons laisser le perfectionnement de l'épouse aux soins de l'époux bien-aimé. C'est lui-même qui achèvera son œuvre dans tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Éphésiens 5, 27. Seul l'amour parfait entrera là-bas. Bienheureux sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Romains 16, 25 à 27. Je vous en prie, n'oubliez pas, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ, et nous sommes destinés à être avec lui dans la gloire. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 2 Pierre 1, 3 et 4. Que les bénédictions de Dieu reposent sur vous tous. Agissant de la part de Dieu, Frère Franck. Les voyages missionnaires de ces mois passés, effectués dans 12 pays en Extrême-Orient et en Afrique, ont été très éprouvants, mais aussi accompagnés de bénédictions spéciales. Partout, des milliers de personnes sont venues de près et de loin, également aux réunions tenues à Paris, le 10 juillet, et en Roumanie, le 17 juillet. La photo montre la réunion du 10 avril 2016 à Cotonou, au Bénin en Afrique. Prière. Bien-aimé Seigneur, souviens-toi de l'alliance que tu as faite avec nous, du sang que tu as versé pour nous, des promesses que tu nous as données, et par ta grâce, accorde à tes héritiers ta vie éternelle.